VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Abidjan, 19h à Kigali. Bienvenue à notre journal. Au Nigeria, des djihadistes de Boko Haram ont attaqué une veillée funéraire près de la ville de Goulak, état d'Adamawa, dans le nord-ouest du pays. Bilan 24 morts et plusieurs blessés. Le porte-parole de la police d'Adamawa, Othman Aboubakar, a confirmé l'attaque depuis Yola, la capitale de l'État. Mais il donne un bilan moindre, 18 morts et de nombreux blessés. Les djihadistes sont venus en moto et ont ouvert le feu sur la foule, tuant surtout des femmes. Les assaillants ont brûlé des maisons et volé de la nourriture avant de repartir une heure plus tard. Au Niger voisin, le camp de Ngagam, qui accueille des réfugiés et déplacés internes fuyant le groupe djihadiste Boko Haram dans le sud-est du pays, a été attaqué hier, peu après le passage d'une importante délégation ministérielle. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP le ministre nigérien de l'Intérieur, Mohamed Bazoum. Le convoi d'une trentaine de véhicules de la délégation, transportant notamment quatre ministres et le coordinateur humanitaire de l'ONU, était venu dans la région pour procéder à une distribution de vivres. De nombreux déplacés s'étaient plaints de ne pas avoir reçu de nourriture, parfois pendant plus de quatre jours. Al-Qaïda au Maghreb islamique a diffusé jeudi une vidéo apportant une preuve de vie de l'otage suisse Béatrice Stockley. Le groupe détient la religieuse depuis janvier au Mali. Et toujours concernant le Mali, le premier ministre malien Modibo Keïta a demandé à l'ONU de sanctionner ceux qui ne respectent pas l'accord de paix et de doter les casques bleus au Mali d'un mandat plus offensif. Les précisions de Morgane Guiriec.
S'adressant au Conseil de sécurité de l'ONU hier à New York, Modibo Keïta a noté que celui-ci avait déjà menacé de sanctions ceux qui traînent des pieds dans la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger. Il a aussi appelé les signataires de l'accord à accélérer son application. Le Premier ministre malien a pris note de l'intention de l'ONU d'augmenter de 2500 hommes les effectifs de la MINUSMA, déjà forte de 12 000 hommes. Des attaques contre les casques bleus ont fait 19 morts ces derniers mois, faisant de la MINUSMA la mission la plus dangereuse parmi les opérations de maintien de la paix dans le monde. Pour le Premier ministre malien, il faut plutôt renforcer ses capacités opérationnelles, c'est-à-dire lui donner une posture plus robuste et plus active et une définition de ses règles d'engagement. Le Conseil sous présidence française doit renouveler avant la fin du mois le mandat de la MINUSMA.
Au Niger, deux des trois journalistes inculpés pour divulgation de documents issus de perquisitions et diffusion d'informations pouvant influencer une décision de justice ont été condamnés à 3 mois de prison avec sursis. Le troisième, qui est l'imprimeur du journal, lui a été relaxé. Rappelons que le journal Le Courrier avait publié en mai des listes de personnes pas qualifiées à admettre à un concours établi par des hauts placés du régime de Niamey et transmises aux organisateurs du dit concours. Côté défense, Maître Mossi Boubacar, un des avocats des journalistes, a déclaré après le verdict que les prévenus n'ont pas été jugés sur la base de la loi qui régit la presse au Niger. On l'écoute.
Pour ce qui est du résultat, je suis quand même satisfait du fait qu'ils n'ont pas continué à garder prison. Mais en termes de procédure, il y a quelque chose à dire. Pourquoi ? Parce que c'est quand même des journalistes. Il y a une loi sur la liberté de presse. Cette loi n'a pas été appliquée. On va se concerter avec les autres avocats et les clients pour savoir quelle attitude adopter. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'on mette les moyens pour faire une loi, qu'on fasse de la propagande pour tirer les conséquences de l'élaboration de cette loi et que dans l'application, cette loi soit mise au placard. Ça ne sert à rien de faire des lois et les mettre à l'écart.
Maître Mossi Boubacar, au micro de notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa. Côte d'Ivoire, les victimes du déversement des déchets toxiques en 2006 à Abidjan ont salué jeudi une décision de justice à Londres condamnant un cabinet à leur restituer leur indemnisation. Les victimes avaient déposé une plainte en 2014 auprès de la Haute Cour de justice de Londres contre ce cabinet qui était en charge de la transaction financière au terme de l'accord d'indemnisation signé en 2009 à Londres avec la multinationale Trafigura.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Chris Obungundi, fin de la visite dans le pays des trois experts de l'ONU sur les droits de l'homme. Ces enquêteurs ont eu des consultations avec les autorités burundaises, des acteurs politiques, des membres de la société civile, des organisations humanitaires et aussi des victimes de violations des droits humains. Plus de détails sur leur mission avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Les trois experts indépendants nommés par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ont terminé leur deuxième visite au Burundi. Les signes les plus manifestes de conflit ont diminué, certes, mais les experts ont exprimé de sérieuses préoccupations concernant l'absence de progrès dans la mise en œuvre concrète des réformes des droits humains. Pour le rapporteur spécial de l'Union africaine sur les réfugiés, les demandeurs d'asile, les migrants et les personnes déplacées, Madame Maya Sarli Fadel, les experts sont restés sur leur faim concernant la question médiatique au Burundi.
Sur ce point, il n'y a pas eu une très nette amélioration. Je pense que sur ce plan, nous avons interpellé les autorités burundaises pour essayer d'ouvrir un peu plus le champ médiatique, ce qui est très important, de manière à améliorer également la confiance entre le gouvernement et les populations.
Les experts ont noté également que le nombre de réfugiés, de personnes déplacées a augmenté depuis leur dernière visite de mars dernier. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
République centrafricaine, la mission de l'ONU en RCA, MINUSCA, annonce aujourd'hui l'envoi d'une force d'interposition dans le nord-ouest du pays après les violences qui ont fait au moins 10 morts et plusieurs blessés lors d'une attaque perpétrée par des peuls armés et des membres de l'ex-rébellion Seleka. Le plus grave affrontement en RCA depuis les récentes élections présidentielles. Plus de détails avec John Lyndon.
Cette attaque est la plus meurtrière depuis l'élection du président Faustin Akanji Touadéra en février dernier. Selon un officier de la gendarmerie, des éleveurs peuls en provenance de Kabo et Margunda au nord ont demandé à traverser Ngaoundaï pour aller vers la frontière avec le Cameroun. Ils se sont heurtés au refus des habitants. Puis, les peuples appuyés par des ex-Seleka sont entrés dans le centre de Ngaoundaï mardi, tirant sur les habitants, incendiant des maisons ainsi que la brigade de gendarmerie. Plus d'une dizaine de personnes ont été tuées. Pour l'instant, les lignes téléphoniques sont coupées à Ngaoundaï. Des gendarmes ont été envoyés en renfort pour sécuriser la région. Certains de ses habitants ont fui pour se réfugier en brousse.
Politique en RDC, le Togolais Edem Kodjo rencontre l'opposition congolaise aujourd'hui à Bruxelles. Objectif du facilitateur désigné par l'Union africaine pour le dialogue politique en RDC, essayer de convaincre les opposants de participer aux travaux du comité préparatoire au dialogue. L'un des ténors de l'opposition congolaise à Bruxelles, Joseph Olengakoy, désavoue l'initiative d'Edem Kodjo.
Celui que Kodjo est en train de préparer là, c'est un dialogue qui est déjà mort. Parce que ça, c'est le dialogue de Kabila. C'est sur la convocation de l'ordonnance de Kabila. Mais c'est ce dialogue-là que la classe politique n'en veut pas. Moi, je crois qu'on est clair là-dessus. On n'en veut pas de ça. Nous, on n'est pas là pour aller assassiner notre constitution. Le dialogue de Kabila, c'est pour l'assassinat de la constitution. Et ils cherchent avec qui ils peuvent assassiner la constitution. Nous, nous sommes pour l'établissement et la consolidation de notre constitution.
Joseph Olengakoy, porte-parole de la plateforme Dynamique de l'opposition, joint à Bruxelles. Les deux boîtes noires de l'Airbus A320 d'Égyptair ont été finalement repêchées ces dernières 24 heures en Méditerranée. Près d'un mois après le crash, ces découvertes devraient permettre les enquêteurs à comprendre les causes du désastre aérien. Maïlis Hegel.
C'est l'enregistreur de données qui vient d'être repêché aujourd'hui. Il garde en mémoire tous les paramètres de vol. Hier, c'était l'enregistreur de voix qui mémorise les conversations et l'ambiance dans le cockpit qui a été retrouvé à environ 290 km au nord de la côte égyptienne entre la Crète et l'Égypte à une profondeur de 3000 mètres. Même si les deux boîtes noires ont été retrouvées en morceaux, les équipes de recherche ont pu récupérer la partie la plus importante de l'enregistreur, celle qui contient la mémoire de l'appareil. Ces deux boîtes, qui sont en réalité d'une couleur orange, vont être transférées au Caire pour être analysées par les Égyptiens, le bureau d'enquête et d'analyse français et le constructeur européen Airbus. Ce crash avait fait 66 morts le 19 mai. Au départ, un attentat terroriste a été envisagé, mais l'absence de revendications et le déclenchement des alarmes avant la chute de l'avion semblent écarter cette hypothèse.
Et pour terminer la lutte contre le groupe État islamique en Irak, les forces irakiennes sont entrées aujourd'hui dans le centre de la ville de Fallujah et ont repris le quartier général du gouvernement aux djihadistes de l'État islamique. Un succès obtenu après plusieurs jours de combats féroces. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.